Empezamos.
Sí.
Bueno, buenas tardes. Vamos a dar sesión entonces, apertura a la sesión de la tarde. Vamos a tener cuatro comunicaciones. Vamos a hacer una pequeña pausa para el café de 15-20 minutos. Los vamos a tomar aquí enfrente, afuera, más que nada para charlar, porque la idea es tener tres comunicaciones después de la pausa, si hoy podemos terminar sobre las 7 más o menos de la tarde. Bueno, para esta primera exposición de la tarde, vamos a compartir con Gesso Pen de la Universidad de Nantes. Así que, bueno, muchas gracias por estar esta tarde y te escuchamos atentamente.
Sí, voy a presentar mis reflexiones en francés porque pienso que será mejor para la precisión de mis proposiciones. Quand j'ai vu le thème de notre colloque, les frontières d'eau dans les villes portuaires, j'ai pensé que c'était une occasion pour une réflexion sur le cosmopolitisme dans les ports, en prenant comme exemple la façade atlantique française. Et je vais présenter deux grandes orientations. La première sera centrée sur une culture économique et sociale. Et puis la seconde sera plus centrée sur quelque chose qui renvoie à un aspect plus culturel dans le sens des relations sociales et dans le sens d'un partage de valeurs et d'un partage d'expériences culturelles au sein de la ville portuaire. Pour la première entrée sur la signification du cosmopolitisme pour les villes portuaires françaises, il me semble nécessaire de distinguer deux moments, deux phases à l'époque moderne. La première phase pourrait correspondre au XVIe siècle et aux deux tiers du XVIIe siècle. La seconde phase, le dernier tiers du XVIIe siècle et le XVIIIe siècle. La première phase, nous devons considérer que le cosmopolitisme a un environnement spécial. C'est-à-dire que les ports français sont dans une position seconde à l'intérieur de ce qui forme le premier monde atlantique. Ce sont comme des ports relais qui obéissent et qui sont sous l'influence de centres de commandement qui sont extérieurs. Ces centres de commandement sont en Italie du Nord, en Flandre, et bien sûr, avec le développement du XVIe siècle, dans la Castille. On peut parler aussi des Anglais, quoique les Anglais ont une influence prépondérante, surtout sur le port de Bordeaux. Au XVIIe siècle, les choses vont changer avec l'arrivée des Portugais au tout début du XVIIe siècle, mais surtout, ce qui est marquant pour les ports français, c'est l'installation de puissantes minorités hollandaises. Face à cette situation où c'est une élite d'origine étrangère qui domine le commerce international, commerce international qui est un commerce international atlantique intra-européen, mais également vers l'outre-mer, il y a deux alternatives de relations entre ces minorités étrangères et les marchands locaux. Marchands locaux, marchands bourgeois locaux, qui peuvent être très locaux, mais qui peuvent venir aussi de la région environnante et qui peuvent venir aussi du royaume. La première attitude possible est une réaction défensive qu'on pourrait qualifier de type xénophobe, d'hostilité vis-à-vis de la présence étrangère. Et ceci se marque par la volonté d'utiliser les privilèges de bourgeoisie pour la défense des intérêts commerciaux locaux. C'est l'attitude la plus rare. C'est l'attitude, finalement, quand on considère la période, minoritaire. Elle est concentrée sur la première moitié du XVIIe siècle. Et elle vise principalement deux groupes, les Portugais et les Hollandais. Les Portugais, parce que, naturellement, il y a le soupçon de la continuité de la religion juive qui se marque vis-à-vis de ces marchands. Et les Hollandais, naturellement, ce sont des calvinistes, donc également, on s'en méfie beaucoup. Mais l'attitude dominante, quand on prend l'ensemble de la période, l'attitude dominante est la recherche d'une collaboration, collaboration qui est évidente quand il s'agit de travailler avec les Italiens, avec les Flamands, surtout s'ils sont des Pays-Bas du Sud, et avec les Castillans. Collaboration qui va aussi se faire progressivement avec les Hollandais, malgré la différence religieuse. On pourrait dire qu'à ce moment-là, le cosmopolitisme, il connaît une évolution, il est justifié, il est, je dirais, comme encadré par un démarrage qui serait dans un rapport un peu d'inégalité, mais dans l'idée que si on s'insère dans les réseaux commerciaux construits par ces pôles extérieurs, on va pouvoir faire des profits plus importants rapidement. La seconde chose, c'est aussi se mettre à l'école, rentrer dans un apprentissage de techniques commerciales, de techniques de gestion, de management de réseau, même de techniques artisanales qui vont permettre d'apprendre comment fonctionne le capitalisme international. On pourrait dire que nos marchands bourgeois français sont à l'école de cette élite internationale. La situation change à partir du règne de Louis XIV, vers 1660-1670, du programme mercantiliste appuyé de Colbert, parce que là, les ports français basculent dans une situation de ports de commandement. Ils ne sont plus des pôles secondaires, mais ils deviennent les centres directionnels. À ce moment-là, bon, on comprend bien que c'est lié naturellement à la colonisation française. Colonisation française qui est beaucoup plus tardive que la colonisation espagnole ou portugaise. La traduction au niveau des minorités étrangères est la suivante. On voit un recul des Hollandais, ils ne disparaissent pas, mais il y a une baisse tout à fait sensible. Il y a une percée irlandaise qui est très marquante dans les ports français, fin XVIIe siècle, début du XVIIIe siècle. Surtout, ce qui est manifeste, la domination des Allemands pour le XVIIIe siècle et l'arrivée des Suisses dans la deuxième moitié du XVIIIe siècle. Donc on voit bien que les minorités étrangères changent considérablement dans les ports français selon qu'on démarre à la fin du XVe siècle ou qu'on arrive à la fin du XVIIIe. Et ceci est un témoignage éclatant de l'évolution du centre de gravité de l'économie européenne commerciale, du capitalisme commercial international, qui a sa traduction ici, mais également de l'importance du marché de consommation européen. Les conséquences. Les conséquences, il me semble qu'il y en a deux qui sont très importantes. La première, c'est que on va avoir une division internationale du travail qui va cadrer, qui va établir les relations entre marchands bourgeois des ports français et présence étrangère. Le commerce colonial sous le régime de l'exclusif, politique colbertiste. Le commerce intra-européen, le commerce intra-européen, surtout le commerce d'approvisionnement pour le commerce colonial et le commerce de redistribution des produits coloniaux pour les étrangers. Voilà le partage sur lequel s'établissent des relations qui peuvent être des relations pacifiées. On s'est distribué les rôles, ça contribue très fortement à pacifier les relations. Une autre direction de recherche me semble tout à fait intéressante, c'est la question de savoir si, avec cette organisation du commerce international, nous avons une mutation dans le fonctionnement interne des réseaux marchands. C'est-à-dire, ce que vous pouvez lire derrière moi, est-ce que une rationalisation économique du capitalisme commercial ne devient pas supérieure, ne devient pas le principal régulateur des relations entre les marchands au-dessus, au-delà des normes très classiques qui sont contenues dans ce que j'ai nommé ici le capitalisme relationnel et ce que j'appelle le capitalisme relationnel. C'est-à-dire le capitalisme qui fonctionne sur la confiance que l'on a vis-à-vis de groupes d'individus bien connus, bien ciblés, la parenté, l'origine géographique et la religion. C'est-à-dire, Est-ce que les incertitudes du commerce aux horizons lointains, incertitudes sur la qualité des produits, incertitudes sur savoir quand est-ce qu'il faut acheter, incertitudes sur la correspondance des produits offerts avec les goûts des consommateurs européens. Il me semble que, en tout cas, la recherche française insiste beaucoup là-dessus, nous sommes dans une étape avant la standardisation. Et les meilleurs marchands ont énormément de mal à maîtriser toutes ces données. Ce qu'ils recherchent, c'est la meilleure façon de pouvoir s'approcher d'une bonne maîtrise. Et la construction d'une sorte d'éthique capitaliste, commerciale, internationale, qui serait partagée par tous. Une éthique d'un métacapitalisme. Ce que nous pouvons voir, c'est une forme de tension, me semble-t-il, entre cette perspective et des réflexes anciens, hein, des réflexes qui font qu'on continue toujours quand même si on voit cette nouvelle culture économique progresser, des réflexes anciens, privilégier la parenté, privilégier les gens de la même religion, privilégier les gens de la même origine géographique. Et ce qui est intéressant, si vous voulez, c'est l'effort de dépassement de cette situation. Interviennent deux éléments complémentaires dans le tableau que je vous ai dressé. Le climat d'intolérance religieuse, il ne faut pas oublier que nous sommes dans un climat d'intolérance religieuse, nous sommes dans la cohabitation de gens qui sont foncièrement intolérants. Jamais perdre ça de perspective. Les marchands de confession protestante, on a réellement des difficultés, et ceci est lié, si vous voulez, à la périodisation française des relations entre confession catholique et confession protestante. Voilà. Schématiquement, on peut résumer ça de façon simple. Au XVIe siècle, guerre de religion. Après, nous avons la phase de l'édit de Nantes, qui est une phase quand même de pacification. Et puis, il y a cette révocation de l'édit de Nantes, qui va perturber considérablement la position des Hollandais, par exemple. Et puis, vers 1730, l'entrée dans quelque chose dans lequel la tolérance peut devenir une vertu, mais on avance lentement. Le traitement très différencié des Juifs portugais. Les Juifs portugais ont été bien reçus dans deux villes françaises. Bayonne, principalement, et Bordeaux. Bayonne, parce que c'était des intermédiaires obligatoires pour l'énorme contrebande dont on a déjà parlé ce matin. C'est pour ça qu'ils ont été bien reçus. Et Bordeaux appartient également à cette même mouvance. Et bien que il faut vraiment attendre les années 1730 du XVIIIe siècle pour que les Juifs de Bordeaux puissent quand même être considérés relativement bien. Bon. L'impact politique de la politique extérieure de la monarchie, tout le monde voit comment ça peut se présenter. Sur l'environnement social et culturel du cosmopolitisme, je pense qu'il faut être très attentif à la diversité des modalités d'implantation des étrangers, dans le temps et dans l'espace. Dans le temps, ceux qui sont de passage, ceux qui vont être là pour une courte durée, ceux qui vont rester là pendant 20 ans, 30 ans, 40 ans, mais qui repartiront, et puis ceux qui vont toujours rester là. Cette diversité d'entrée est importante. Variation également du mode de résistance, de résidence. Ceux qui vont se contenter de vivre dans des auberges ou d'avoir des logements qu'ils quittent très rapidement. Et ceux qui vont louer des logis à l'intérieur d'immeubles ou ceux qui vont passer à la propriété, qui vont pouvoir acheter quelque chose. Vous comprenez bien naturellement que la relation entre le temps et l'espace est extrêmement forte. Enfin, le rapport à l'espace urbain, on pourrait dire le rapport à l'identité urbaine, entre par un aspect matériel et immatériel. L'aspect matériel, j'exprime ce qui semble ressortir, la tendance à la dispersion est plus forte que la tendance au regroupement. Seuls les Juifs se regroupent. Les autres se dispersent. On peut noter les variations, mais c'est la tendance à la dispersion. Cela veut dire que les considérations de niveau social sont plus fortes que les considérations d'origine ethnique. Les riches vont avec les riches, les moyens vont avec les moyens, les pauvres avec les pauvres. Pour les lieux de sociabilité et de construction identitaire, et quelque chose gêne terriblement les marchands protestants en France, c'est que les villes portuaires n'acceptent pas, pendant la période de l'édit de Nantes, les villes portuaires n'acceptent pas la présence de temples protestants dans les villes. Et si on voit des marchands étrangers participer au consistoire protestant, participer à l'animation de la petite communauté protestante, c'est, d'une certaine façon, entrer dans la marginalité de l'identité urbaine. Pour la construction identitaire, pour le partage plus fort, le XVIIIe siècle est plus valorisant, parce qu'au XVIIIe siècle, à travers les académies de belles lettres, de sciences ou de peinture, à travers les clubs de lecture, à travers l'éloge de la franc-maçonnerie, on a là des points de rencontre qui peuvent jouer un rôle de partage plus important. Là encore, ne pas s'illusionner, entre les déclarations d'intention d'universalisme de la franc-maçonnerie et la réalité un peu sectaire de ces loges, il y a un décalage réel. Voilà. C'était quelques idées que je voulais vous proposer à propos du cosmopolitisme dans les ports français.